Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux 30e rencontres de Pétrarque à Montpellier. 30e édition, organisée autour d'une seule notion, débattre, et autour du thème suivant ce mardi, dépasser la crise du progrès. Mais d'ailleurs, le progrès est-il vraiment en crise? Après tout, nous vivons plus longtemps, les grandes épidémies régressent, la faim dans le monde recule, Internet nous facilite la vie, et sans doute ne serions-nous pas si nombreux que cela à vouloir retrouver à l'identique nos anciennes conditions d'existence. Ce qui nous manque, c'est la conviction que ces progrès-là participent d'une émancipation globale portée par la logique de l'histoire, le développement du terrorisme mondial, les crises sanitaires à répétition, le réchauffement climatique, la surveillance, d'autant plus globale qu'elle s'organise avec notre consentement, l'intelligence des machines qui, dit-on, pourrait finir par surpasser la nôtre, tout cela alimente une forte inquiétude à l'égard de l'avenir. Alors faut-il pour autant renoncer au progrès? Sans doute pas, mais peut-être est-il nécessaire de repenser cette notion. Qu'est-ce que le progrès? À qui et à quoi doit-il servir? Voilà quelques-unes des questions que nous allons aborder avec nos invités du jour, à commencer par Jean-Noël Jeannet. Bonjour.
Bonjour.
Historien, ancien président de Radio France, c'est vous qui avez créé le Festival de Montpellier, les rencontres de Pétrarque, avec Jean-Marie Borzex, qui lui était le directeur de France Culture. Vous êtes producteur à France Culture, Concordance des temps, ce qui vous vaut de succéder chaque samedi matin sur l'antenne de France Culture à Alain Finkielkraut.
Voilà, quel privilège.
Et c'est la liaison que j'ai choisie, puisqu'il y a un autre successeur parmi nous d'Alain Finkielkraut, c'est Michael Fossel. Bonjour.
Bonjour.
Vous lui avez succédé comme professeur à Polytechnique en 2014. Vous êtes philosophe, membre du comité de la rédaction de la revue Esprit. Vous avez publié l'an dernier aux éditions du Seuil Le temps de la consolation. Nous aurions dû être en compagnie d'une autre philosophe, Cynthia Fleury. Malheureusement, il y a eu certains soucis personnels qui font que nous sommes privés malheureusement de sa présence aujourd'hui. Puis dans quelques minutes, au fil de la conversation, nous rejoindrons l'écrivain Régis Debray, que vous avez déjà entendu hier, et le philosophe Patrice Maniglier, que vous aurez l'occasion d'entendre plus longuement demain. Alors Jean-Noël Jeannet, dans l'introduction à cette rencontre, j'évoquais finalement différents types de progrès, à la fois des progrès qu'on peut constater, qui sont de l'ordre de la technique, ou des progrès liés aux avancées de la médecine, et puis aussi cette idée de progrès. Est-ce que, pour commencer, et puisque le lieu s'y prête, il se prête à faire un petit peu de pédagogie, ce qu'il faut distinguer deux formes de progrès, c'est-à-dire que ce serait le progrès qui n'est pas la même chose que les progrès.
Eh bien, pour tout vous dire, un sujet tel que celui-ci est fait exactement pour susciter la gourmandise de l'historien. Je me réjouis d'ailleurs de voir si il en va de même pour le philosophe tout à l'heure. Mais en réalité, nous trouvons dans cette problématique un bon nombre des interrogations qui nous sont familières en histoire, en historiographie. Je veux dire d'abord, évidemment, la rencontre entre l'objectivité et la subjectivité. Vous avez vous-même commencé d'esquisser un certain nombre de critères objectifs. Est-ce que il y a des progrès dans l'ordre de la technique? Sûrement, la science, du côté des droits de l'homme, du côté de l'ensemble des relations de l'espèce avec l'écologie, avec la planète tout entière. Il y a un autre aspect qui est très stimulant pour nous, c'est qu'on rencontre les différents rythmes de la durée. Il y a évidemment, quand on parle de progrès, une vision qui peut être cyclique. On revient toujours en arrière. Un certain nombre de philosophes, Vico et d'autres, ont pensé cela. Borges imagine dans une de ses nouvelles une secte hérétique qui, au début de l'ère chrétienne, imaginait que tout se reproduisait tout le temps de la même façon. Il avait remplacé d'ailleurs le poisson par le perroquet comme personnage, comme animal symbolique. Donc vision cyclique, vision apocalyptique. On a beaucoup fait le rapprochement récemment, notamment Denis Crouzet avec le XVIe siècle. L'idée qu'on arrive à un moment donné, à un instant dramatique, et puis qu'il y a une période très difficile, et qu'ensuite on ressurgit dans un monde meilleur. Est-ce qu'il faut voir le progrès comme une linéarité, ou est-ce qu'il faut le voir comme fonctionnant toujours deux pas en avant, un pas en arrière, comme dans le monastère luxembourgeois d'Echternach? C'est comme ça que les pèlerins y vont, me dit-on. Est-ce qu'il faut parler d'accélération de l'histoire? C'est encore une grande affaire. Est-ce qu'il y a immobilité? Il y a un livre qui s'appelait L'Empire immobile, un livre d'Alain Perfit, qui a été évidemment fort discuté par les spécialistes. La Chine n'a jamais été immobile. On l'a cru, subjectivité, on l'a dit parfois. Est-ce qu'au contraire, les choses bougent et bougent vite? Il y a évidemment, alors là, vous retrouverez l'émission que vous citiez tout à l'heure, le goût des précédents. Parce qu'évidemment, quand on parle de la crise du progrès, immédiatement, on pense à tous les moments antérieurs où nos prédécesseurs, nos grands-parents, arrière-grands-parents, etc., ont été angoissés par l'idée que le progrès était décidément en crise. Et peut-être insisterai-je tout à l'heure sur ce précédent vraiment topique et vraiment éclairant que constitue la fin du XIXe siècle, où il y a un choc entre les convictions portées par les poètes, par les essayistes, par les penseurs, par les philosophes, dans la ligne de Condorcet. Les progrès de l'esprit humain, on va progressivement vers quelque chose comme un nirvana, un bonheur absolu, et puis, à la fin du 19e siècle, les décadentistes, tous ceux qui disent que tout se dégrade, que rien ne va plus. Enfin, peut-être doit-on dire qu'on retrouve ici une autre sous-branche de l'historiographie qui m'est très chère, c'est l'histoire des futurs. Vous savez, tout ce que l'on peut dire sur la manière dont, dans le passé, on a imaginé l'avenir. Et c'est à la fois très stimulant, souvent baroque, souvent cocasse, mais cela peut conduire assez loin et là encore permettre des rebonds, des reflets entre le passé et aujourd'hui. En somme, tout ça permet, me semble-t-il, c'est presque une sorte de bande-annonce que je me permets de vous proposer, permet d'appliquer
une grille. C'est un plan pour l'émission, même.
D'appliquer une sorte de grille à notre présent qui peut aider, je crois, à le déchiffrer. Question finalement de lucidité, est-ce qu'on comprend bien? Question de sérénité, est-ce qu'on doit s'affoler tout de suite ou est-ce qu'on doit quand même s'inquiéter? Et de quoi et comment? Et puis finalement, la résolution, parce qu'il n'y a de réflexion collective et de débat ici et ailleurs que si c'est pour servir, si possible, quelque chose comme le début de l'esquisse d'une action.
C'est intéressant ce ton de Jean-Noël Jeannet qui est une vraie sérénité, comme ça, on parle de la crise du progrès, c'est un sujet qui, en général, appelle une forme de gravité, voire de mélancolie. Et là, on sent un ton de sérénité et d'entrain. Alors, Michael Fossel, vous méditez beaucoup cette crise du progrès et les façons peut-être de la dépasser. Et vous l'avez fait notamment dans ce livre donc, que Hervé citait, La Consolation, en travaillant des auteurs comme Foucault, comme Ricoeur, comme Marx, comme Adorno. Et vous faites partie de cette génération de jeunes philosophes qui, justement, essayent de reconstruire une espérance collective et aussi une espérance quotidienne à partir de cette réflexion sur le deuil de la modernité et de ses espérances, de ses promesses non tenues. Donc est-ce que vous aussi, depuis votre position de philosophe, vous pouvez parler de la crise du progrès et de son possible dépassement avec la même sérénité que Jean-Noël Jeannet?
Peut-être pas la même sérénité, mais au moins dans un souci d'abord un peu pédagogique, c'est-à-dire de quoi parle-t-on lorsque l'on parle du progrès et de son éventuelle crise. Et vous avez évoqué ce thème de la consolation. Je crois que s'il y a une crise du progrès, c'est justement au sens où nous sommes devenus peut-être inconsolables de cette catégorie de la consolation qui était le progrès. Parce que qu'est-ce que signifie finalement cette notion de progrès? Là, je prends un peu mes habits de philosophe et pour essayer de comprendre que cette notion de progrès, évidemment, vous l'avez rappelé dans votre introduction, elle n'apparaît pas simplement au XVIIIe siècle comme telle. L'expérience de progrès dans la vie intime des individus, d'une évolution, d'une croissance même, on pourrait presque le prendre au sens biologique, cette expérience-là, elle n'appelle pas une représentation collective de l'histoire. C'est seulement à partir du XVIIIe siècle, des Lumières, finalement, que s'impose, d'ailleurs de manière peut-être un peu éphémère, on s'en rend compte aujourd'hui, cette représentation que le temps lui-même est en progrès. C'est-à-dire que collectivement, je dirais, quelles que soient nos actions individuelles, quel que soit notre positionnement social aussi, le temps, en quelque sorte, joue pour nous. Il joue en notre faveur. C'est un peu ça l'idée fondamentale du progrès, celle peut-être que nous avons perdue. Alors, faut-il s'en plaindre? On aura l'occasion évidemment d'y revenir tout au long de cette discussion, mais je crois que ce qui rend la chose peut-être un peu attristante, avant même de savoir pourquoi, au fond, cette représentation du progrès s'est un petit peu éloignée de nous, c'est que le progrès, cela veut quand même dire qu'il y a, entre la liberté des hommes, d'une part, et le temps, de l'autre, un rapport, une sorte de complicité secrète. Que ce que les peuples, ou un certain nombre de collectifs d'ailleurs, inscrivent dans l'histoire, eh bien, n'est pas vain, évidemment, se coagule, en quelque sorte, s'accumule, hein, c'est ça l'idée du progrès, une sorte d'accumulation à la fois du savoir, de l'action, de la liberté, des institutions, qui fait qu'un cap est fixé, à partir duquel, disons, nous pouvons nous déterminer à agir collectivement. Alors évidemment, la crise du progrès, je dirais, la première grande crise du progrès, c'est pas celle que nous vivons dans notre temps un peu peut-être catastrophiste. Je dirais que la première crise du progrès, c'est le moment où le progrès se transforme en progressisme. Jean-Noël Jeannet a évoqué le 19e siècle. C'est au 19e siècle, en réalité, que se fait cette rencontre un peu monstrueuse entre l'idée selon laquelle justement la liberté et le temps peuvent être complices, et puis l'évolutionnisme darwinien, c'est-à-dire cette idée que la liberté est une fatalité. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quel que soit le nombre de morts, quelle que soit la gravité des catastrophes, quelle que soit l'intensité des conflits, le terme est déjà écrit dans l'avenir. Et au fond, de ce point de vue-là, le progressisme, c'est-à-dire cette idée que l'avenir par avance justifie le présent, ses injustices, ses horreurs, ce progressisme, sans doute, l'avons-nous perdu, mais de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'il y ait de consolation à réclamer.
Jean-Noël Jeannet, est-ce que la crise du progrès, finalement, elle n'est pas perceptible à partir du moment où on a l'impression qu'on ne peut pas y échapper, que ça a une sorte de caractère inéluctable ?
Eh bien, l'inévitabilité, on vient de l'évoquer à propos du progrès en soi, est-ce qu'il faut l'appliquer aussi à l'impossibilité du progrès ? Et c'est vrai que, comme vous le dites très bien, si le progrès ou le contraire du progrès sont inévitables, alors à quoi bon agir ? Et cette liberté de l'action qui nous intéresse beaucoup. Et c'est pourquoi le 19e siècle me paraît si important. Il y a à la fois cette idée chez beaucoup qu'en effet, on est destiné à avancer toujours vers un mieux-être qui sera peut-être un jour un nirvana pour l'humanité. J'ai envie de vous lire quelques vers de Victor Hugo qui me paraissent exprimer exactement cela. Où va-t-il ce navire ? Il va de jour vêtu à l'avenir divin et pur, à la vertu. À la science qu'on voit luire, il va ce glorieux navire, au droit, à la raison, à la fraternité. L'âpre fatalité se perd dans le lointain, toute l'antique histoire affreuse et déformée sur l'horizon nouveau fuit comme une fumée. Alors effectivement, c'est ce que vous appelez le progressisme. Laissons-nous aller, porter par ce que Condorcet a dessiné, ce que des scientifiques aussi. Et c'est très intéressant parce que ça conduit directement au rapport entre la science et l'organisation de la société. Ont à la fin du 19e siècle marqué comme les ressorts assurés inévitable de ce progrès inscrit en quelque sorte dans une sorte de fatalité. Et c'est curieux parce que ce sont ces gens qui sont très hostiles à l'idée d'une histoire universelle telle que dessinée par Bossuet, l'idée d'un dieu qui organiserait tout et qui en même temps retrouve l'idée de cette fatalité même. Il y a un personnage qui m'a toujours beaucoup intéressé, c'est Marcelin Berthelot, parce que là on est du côté des scientifiques. C'est le chimiste Marcelin Berthelot. Il était ministre des Affaires étrangères, donc il a été aussi dans l'action et c'est intéressant. Par parenthèse, il est au Panthéon. C'est grâce à lui que la première femme est au Panthéon, puisqu'on y a mis aussi sa femme. Et je ferme cette parenthèse, peut-être du côté du féminisme, pourrait-on trouver quelques progrès. Je ne m'égare pas, je reste à Marcelin Berthelot. Marcelin Berthelot, qui disait que le siècle marquait une promesse solennelle de triomphe universel de la science qui arrivera à assurer aux hommes le maximum de bonheur et de tranquillité. Et dans des écrits de la fin des années 1880, il parle en particulier, il est chimiste, des merveilleux apports que la chimie fournira à l'humanité. D'abord, elle va permettre aux aéroplanes de voler, et dès lors qu'ils voleront, on ira voir les autres peuples facilement, très rapidement, et on verra à quel point ils sont peu différents de nous, et en même temps intéressants, on n'aura plus aucune envie de les estourbir. Donc ce sera évidemment la fin de la guerre. On n'aura plus de problème de nourriture, puisque la chimie pourvoira. Il y aura des repas réduits à des pilules, ça c'était pas très gai. Mais d'autre part, ça sera la fin des paysans. Il en parle déjà. Il y a chez Berthelot un mélange, vu à un siècle de distance, de lucidité et d'erreur. En particulier, quand il pense que la chimie, au fond, sera le vecteur d'une paix universelle. Et que, à la fin du 20e siècle, c'est l'époque où on écrit beaucoup de livres. Qu'est-ce qui se passera en 1965, en l'an 2000, etc. Et à ce moment-là, je gage, dit Berthelot, que les progrès de la science et de la technique vous assureront le meilleur. Et en même temps, dans la même période, il y a des débats frénétiques, beaucoup moins civilisés que le nôtre, mon cher philosophe, qui interviennent entre, d'une part, des hommes de la tradition du radicalisme, de néo-kantisme, et d'autre part, les catholiques. Par exemple, on voit Brunetière, qui est le tenant du refus de la science comme dominant le monde, attaquant très très violemment ceux qui affirment, comme Berthelot, que la science pourvoira à tout. Et qui disent que par conséquent, il va y avoir une crise du progrès et que Dieu ne manquera pas de punir l'incroyable prétention, la profusion de la prétention des hommes qui pensent qu'ils vont dominer la nature alors que c'est Dieu qui continue de le faire. Il me semble qu'on trouve dès ce moment-là beaucoup des problématiques avec les mots de l'époque qui ne sont pas les nôtres, qui sont encore très vivantes aujourd'hui.
Mais ce qui reste vivant, effectivement, c'est peut-être cette idée d'une amélioration, d'un mieux, d'un meilleur dont parlait Jean-Noël Jeannet. Et en même temps, est-ce que ce dont nous faisons le deuil, c'est pas d'un autre aspect du progressisme ou d'une idée qui peut-être était l'horizon progressiste du progressisme, c'est-à-dire que quelque part, c'était pas l'idée d'un mieux ou d'un mieux-être ou d'un meilleur, c'était l'idée d'autre chose. C'est-à-dire que c'était pas seulement on allait avancer vers quelque chose de mieux, mais on allait rompre avec le monde tel qu'il était. Finalement, quand Marx, que vous avez beaucoup étudié, dit on va faire sortir l'humanité de sa préhistoire, c'est-à-dire d'un monde plein d'injustices, rongé par les contradictions, par les guerres, etc. On va faire rentrer l'humanité dans l'histoire. C'est pas l'idée d'un mieux ou d'un meilleur, c'est l'idée d'une rupture. Et on retrouve ça en permanence, par exemple, aujourd'hui, dans le rap contemporain. Si vous prenez un morceau des Lunatiques, qui est ce duo, constitué par Booba et son ami Ali, à un moment donné, ils disent, on a l'au-delà pour nous maintenir. Quelque part, l'au-delà pour nous maintenir, c'est aussi ce qui a maintenu toute une série de débats intellectuels pendant très longtemps. Et l'idée de progrès, le débat sur le progressisme, c'était un débat structuré par un horizon qui était un horizon d'au-delà, au-delà du monde présent, de ses injustices, etc. Michael Fessel.
Et il n'y a pas de rencontre de Pétrarque sans citation de Booba par Jean Bierne, vous l'aurez remarqué, pour les plus fidèles. Michael Fossel.
Oui, il y a certainement une dimension utopique dans le progrès, parce que bien que les choses soient un peu plus compliquées que ça, Jean-Noël Jeannet citait Hugo. Hugo a aussi parlé d'un progrès en pente douce. Et il opposait ça justement à l'homme de la révolution, c'est-à-dire au fond l'idée un peu réformiste par avance, si je puis dire, selon laquelle le progrès, on l'entend même quasiment dans le mot, c'est quelque chose d'un peu lent, qui n'appelle pas de résultats immédiats, une transformation radicale du tout au tout. Mais il y a aussi, effectivement, il y a eu du moins, dans le progressisme du 19e siècle, une alliance entre cette confiance dans l'avenir et puis le schéma révolutionnaire. Et certainement, ceci aussi s'est affaibli pour toute une série de raisons qui ne tiennent pas seulement, alors à mon avis, c'est ce qu'on cite le plus souvent, et ça a son importance, dans les catastrophes, disons, historiques qui ont été liées ou qui ont résulté de cette espérance messianique dans un avenir qui serait, je dirais, mécaniquement meilleur, mais qui tiennent aussi à la représentation que l'on a de la science. On ne peut pas parler du progrès uniquement dans la sphère, je dirais, politique ou morale sans faire référence à la science. On peut dire, d'une certaine manière, l'idée de progrès, elle est née de manière assez concrète, je dis bien l'idée de progrès, pas le constat qu'on peut faire quotidiennement d'un progrès personnel, elle est née, on peut dire, quand Galilée a perçu, grâce à un télescope, les étoiles, c'est-à-dire cette idée que la connaissance serait en éternel progrès, qu'il n'y a plus, pour la science moderne, de limite a priori à notre savoir, et on peut, d'une certaine manière, comme on peut porter le regard d'étoile en étoile, sans avoir une limite qui nous serait assignée, on peut imaginer que ce qui vaut pour le savoir vaut pour le pouvoir, en quelque sorte. Et que ce que l'homme, et c'est bien de cela qu'il s'agit avec le progrès, ce que l'homme est capable de faire, d'une certaine manière, il peut le projeter aussi dans l'avenir. Mais cette idée, évidemment, elle transporte avec elle-même sa propre démesure. C'est-à-dire ce risque que l'on a pu constater historiquement de vouloir non pas simplement progresser sur un chemin qui serait celui, disons, d'une amélioration des conditions sociales, de justice sociale, mais celui d'une transformation radicale de la nature humaine. A-t-il disparu, ce risque ? On dit souvent que nous sommes où nous vivons à une période qui est une période qui est heureusement sortie de l'eschatologie du progrès, du millénarisme, de la certitude dans un avenir meilleur. Moi, je serais quand même, pour le coup, un peu plus dubitatif, voire même un peu inquiet, par rapport à d'autres formes, disons, de fantasmes de la révolution, de la transformation de l'homme, non plus au niveau, cette fois-ci, politique, mais purement technique, comme si finalement cette alliance historique qui a eu lieu entre la science, le savoir, et puis l'histoire, le politique, c'était un peu défaite, mais sans du tout, pour autant, qu'une certaine croyance un peu naïve dans le développement de la science. C'est vrai qu'on emploie de moins en moins souvent le terme de progrès. On parle beaucoup plus d'innovation, on parle beaucoup plus de croissance, on parle beaucoup plus d'accélération. Je ne crois pas que l'idée selon laquelle nous avons totalement abandonné ce fantasme, plutôt, selon lequel le mouvement de l'histoire serait, pour ainsi dire, inscrit dans les choses et indépendamment de la volonté, surtout d'ailleurs de la fragilité humaine.
Mais pourquoi est-ce que vous y voyez seulement un risque, Michael Fossel, et pas également une chance et un pari, finalement, sur cette idée que le progrès peut peut-être aussi conduire à améliorer pas seulement les conditions de vie des humains, mais également la condition humaine, d'une certaine manière?
Parce que, bien sûr, je ne veux pas du tout nier que la science ne participe pas quotidiennement, en quelque sorte, à la transformation, et la technique d'ailleurs aussi bien, à l'amélioration des conditions de vie, mais dans l'idée de progrès au sens, disons, des Lumières, il n'y a pas seulement l'idée d'un, d'un mouvement de l'histoire qui se ferait en quelque sorte derrière notre dos, il y a quand même l'idée que s'il y a dans l'avenir quelque chose de prévisible et même disons de désirable, c'est parce que cet avenir c'est nous qui le faisons. Quand je veux dire nous, je dis collectivement, démocratiquement, nous. Bon, pas du point de vue d'un savoir d'expertise, pas seulement du point de vue d'un savoir scientifique. Donc il y a dans l'idée de progrès que dont je défendrai peut-être, ou en tout cas dont je porterai peut-être ici le deuil, ce qui est une manière de la défendre, même si elle est un peu passéiste, il y a quand même dans l'idée de progrès des Lumières cette idée que le temps est fait de nos propres, collectivement, de nos propres désirs, de nos propres actions, de nos propres espérances. Et de ce point de vue-là, un progressisme sans progrès, c'est-à-dire au fond cette certitude que la science fonctionne bien toute seule ou que la technique avance sans que nous ayons besoin d'y mettre notre nez, si je puis dire, ou d'y porter un regard critique, ce progressisme sans progrès me paraît être bien pire à certains égards que le progressisme politique dont on fait généralement le procès.
Je pense que d'un point de vue historique, Michael touche quelque chose de très important en distinguant réformisme et révolution. Parce qu'au fond, deuil, si deuil il y a, il peut y avoir deuil par rapport à la révolution ou deuil par rapport au réformisme. Alors c'est un fait que beaucoup de chagrins sont nés autour de la révolution, beaucoup d'incertitudes sur sa possibilité et sur ses effets, pour des raisons de toutes sortes que je ne développerai pas. Et en même temps, du côté de la révolution, qui est aussi le réformisme, on trouve renaître du côté d'une puissance religieuse dont personne, je pense, il y a 40 ans, n'aurait imaginé le dynamisme. Je pense aux marginalités de certaines religions révélées. L'idée que, au fond, l'avenir n'a pas tellement d'importance puisque tout va se jouer à très court terme. On retrouve vraiment, ça m'avait frappé en relisant le livre récent de Denis Crouzet sur cette comparaison, je le citais déjà tout à l'heure, de voir les points communs qu'il peut y avoir entre certaines apocalypses, esprits apocalyptiques des religieux protestants ou catholiques du XVIe siècle, et certains djihadistes aujourd'hui. À quoi bon la révolution si à court terme la table est renversée? Donc de ce point de vue-là, effectivement, crise. Et puis crise du côté du réformisme, parce que c'est, à mes yeux, approfondi le fossé entre d'évidents progrès, dans l'ordre notamment scientifique. On a quand même beaucoup moins peur quand on monte l'escalier du dentiste que ce n'était le cas il y a 40 ans. Je trouve ça un progrès, c'est vulgaire, enfin vulgaire. C'est minime peut-être, mais je prends ça comme un exemple topique d'un certain nombre de progrès. Un certain nombre d'entre nous ne seraient pas présents aujourd'hui si c'était leurs ancêtres qui n'avaient pas pu subir des opérations utiles. Pendant très longtemps, la chirurgie c'était tout simplement une sorte de capacité de découper le mieux possible les morceaux du corps humain et pas autre chose. Donc, dans l'ordre de la médecine en particulier, c'est Hamburger qui disait que depuis 1945 jusqu'à la fin du 19e siècle, on avait beaucoup plus de progrès que depuis Hippocrate jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc, je crois qu'il faut que nous continuions à avoir ça dans l'esprit. Simplement, le discours s'est fait de plus en plus, je le pense, entre d'une part ces progrès de la science et d'autre part la conviction qu'on peut organiser la société autour d'un certain nombre de bons vieux principes républicains, la liberté qui est souvent en péril, même si elle est moins peut-être parmi nous que certaines ne l'ont dit hier, l'égalité, la fraternité, qui au contraire sont en défi permanent, en péril constant, et qui viennent marquer une différence avec ce qui dans nos vies matérielles implique quand même de progrès constant pour la partie du monde qui peut en tirer profit.
Alors en même temps, en tant qu'historien, vous avez un regard particulier sur le progrès et surtout sur la crise du progrès tel qu'il a été structuré par des événements passés. Il n'y a pas que Bouba dans la vie, donc il faut aussi citer Walter Benjamin qui a été beaucoup cité hier.
C'est notre chouchou collectif.
C'est le chouchou collectif de ces rencontres, en tout cas de cette semaine. Et Benjamin qui a été beaucoup cité hier, notamment par Finkielkraut, mais aussi par Michel Rio-Sarcey, a eu des passages assez définitifs dans ce petit texte de deuil, justement, qui s'appelait « Les thèses sur l'histoire », qu'il a écrit juste avant de se suicider en voulant échapper aux nazis en 1940. Et il parle de cet ange de l'histoire, vous savez, dont on parlait déjà hier, qui regarde vers l'arrière, qui a le visage tourné vers l'arrière et qui voit finalement une sorte de champ de ruines. Et Benjamin écrit dans ses thèses, ça devrait vous parler à vous, l'historien, que l'ange de l'histoire est pris dans une tempête et que cette tempête, je le cite, le pousse irrésistiblement vers l'avenir auquel il tourne le dos, cependant que jusqu'au ciel, devant lui, s'accumulent les ruines. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès.
Oui, c'est un peu pessimiste. Je ne sais pas si l'historien doit réagir à ce que dit Benjamin, mais je suis porté un peu au fond. J'admire énormément ce penseur magnifique, mais à me dire qu'il faut bien distinguer la vision collective et la vision individuelle du progrès, car il y a un merveilleux petit livre de Lucien Gerfagnon qui s'appelle « Laudator temporis acti ». C'est un vers d'Horace, le poète latin, « Dire du bien de ce qui a été jadis ». J'ai commencé de faire pour ma part, après lui, une petite anthologie des écrits des vieillards expliquant que c'était mieux quand ils avaient 20 ans. Alors je ne réduis pas la pensée de ce maître à cette chose aussi banale, mais enfin des très grands esprits ont dit la même chose. On trouve ça dans Paul Valéry, pas seulement dans Daniel Alévi, on trouve ça même dans Michelet, qui rencontre Béranger sur les Champs-Élysées, sous la monarchie de Juillet. Béranger lui dit « Mais où va-t-on ? » Et Michelet lui dit « Jusque il y a 5 ou 6 ans, il avait 55 ans, on voyait bien où on allait. Mais maintenant, l'humanité est emportée par un flot qu'il est impossible de maîtriser. » Alors c'est un aspect seulement des choses, mais après tout, la collectivité est faite aussi par l'addition d'un certain nombre d'individus et d'un certain nombre de phares de l'humanité qui n'échappent pas, me semble-t-il, à ce que certains ont appelé, à mon avis, à tort, l'accélération de l'histoire, si l'accélération de l'histoire veut dire qu'elle implique une sorte d'opacité de la compréhension de ce qui se fait, peut-être tout simplement... Parce que vous vous rappelez dans le film de René Clair, Belle de nuit, où on voit des vieillards qui disent « Oh, tout, rien ne va vraiment bien ». Mais quand j'avais 20 ans, ils se reportaient 20 ans en arrière jusqu'à la Révolution française. C'est une manière rétroactive de servir et d'occuper le temps. Encore une fois, ce n'est pas l'aspect le plus philosophique des choses, mais il y a dans les comportements collectifs à l'égard d'une notion comme celle du progrès forcément des ressorts qui peuvent parfois trouver appui sur des comportements de ce type. Et comme nous sommes entre gens très jeunes ici, nous sommes protégés contre ce type de péril, et c'est pourquoi je me suis permis de le rappeler sans offenser personne.
Michael Fossel, tout à l'heure Jean-Noël Jeannet évoquait une forme de dissociation qu'il y a pu y avoir entre les progrès qu'on peut constater notamment dans le domaine médical et puis ces valeurs de progrès qui sont les valeurs républicaines et qu'il faut sans cesse défendre parce qu'on peut considérer que par moments elles sont menacées. Est-ce que vous feriez cette même dissociation ou bien est-ce que vous voyez une forme de crise de confiance globale, c'est-à-dire la crise de confiance dont on parle beaucoup dans le domaine politique atteindrait aussi peut-être justement le domaine de la technique. Je rappelais en vous présentant au début de cette table ronde que vous êtes enseignant à Polytechnique, vous avez donc un public d'ingénieurs, c'est-à-dire des gens qui sont amenés à contribuer, à inventer le monde de demain. Est-ce que cette crise-là les touche ?
Ça me sera difficile de faire un jugement général. Je ne crois pas que la notion de progrès apparaisse, en tout cas dans les copies que je corrige assez régulièrement. En revanche, celle qui apparaît beaucoup, et pas seulement d'ailleurs dans les copies que je corrige, c'est la notion d'innovation. C'est comme s'il y avait une individualisation du progrès, une sorte de réduction d'ailleurs aussi de la thématique du progrès à sa dimension économique, qui, à mon avis, laisse de côté une grande partie de ce que signifie, y compris politiquement et collectivement, la notion de progrès. Parce que l'innovation, d'abord, elle se calcule, elle se compte, et puis elle porte aussi, ou elle repose plutôt d'ailleurs, sur une valorisation de la nouveauté pour la nouveauté. Alors, j'ai rien contre l'innovation comme telle, hein, on pourrait en faire aussi une interprétation philosophique plutôt qu'économique, mais enfin, je dirais que quand même, ce qui, par rapport à la notion de progrès, est un petit peu laissé de côté ici, c'est simplement le fait que le progrès ne peut pas, ou ne devrait pas en tout cas, en droit, être simplement le fait d'individus, ou même d'entreprises d'ailleurs, c'est le sujet du progrès ici qui se transforme, mais ça ne veut pas dire pour autant que la croyance dans le progrès, ou plutôt d'ailleurs l'espérance dans le progrès, soit du jour au lendemain devenue absolument séparable de la conscience humaine. Je crois que on a constaté sur des formes peut-être plus microscopiques, sous la forme de lucioles, je dirais, plutôt que de lumière au sens classique du terme, encore tout récemment, des exigences sociales, politiques, qui démontrent que dans l'indignation ou l'exigence que cela soit autrement, eh bien repose implicitement la croyance que cela peut être autrement, si vous voulez. Je ne vois pas comment appeler cette croyance autrement ou la nommer autrement qu'à l'aide de cette notion de progrès. Qu'elle ait perdu de son charme messianique ou de son charme universel, je dirais, c'est probable. Il faut d'ailleurs quand même aussi, de ce point de vue-là, ça renvoie un peu au rapport progrès-catastrophe, nommer quand même le lieu, je dirais, ou plutôt d'ailleurs la date ou les dates historiques de cette dissociation. On le dit souvent, mais ça a une part tout de même de vérité, que ce soit évidemment la Shoah ou que ce soit Hiroshima, il y a là, si vous voulez, des événements d'une telle ampleur et qui engagent à ce point, en particulier pour Hiroshima, le destin de la science et de la technique moderne, que l'on peut dire que d'une certaine manière, à ce moment-là, l'alliance automatique entre le savoir et l'émancipation s'est défait sous nos yeux. Alors faut-il pour autant substituer simplement au progrès la catastrophe, puisque progrès et catastrophe, somme toute, ce sont deux manières symétriques de nommer l'avenir. Bon, j'en doute un peu pour une raison qui n'est pas une raison morale ou politique, qui est que la catastrophe aussi, c'est une manière d'affirmer par avance l'essence de l'avenir. C'est d'une certaine manière aussi présomptueux d'être catastrophiste que d'être progressiste.
Pardon, vous dites ce sont deux manières symétriques, progrès et catastrophe, de nommer l'avenir. Est-ce que ce ne sont pas plutôt deux manières complémentaires? C'est-à-dire que la notion de progrès suppose aussi qu'on accepte le risque de la catastrophe?
Là, ça nous fait revenir à Benjamin, puisqu'il semble que ce soit le fil conducteur. Oui, c'est vrai que Benjamin a beaucoup insisté sur le fait que lorsque nous voyons le progrès sous sa forme, par exemple, monumentale, un monument particulièrement admirable, il faut toujours imaginer aussi la douleur, le travail, parfois l'esclavagisme, les ruines qui peuvent receler, qui ont rendu possible, ce monument. Après, la leçon de Benjamin, elle est moins pessimiste que cela aussi. Je crois que l'ange de l'histoire, puisqu'il en a été question, c'est pas seulement celui qui regarde le champ de ruines du passé, c'est celui qui, dans le passé, va chercher les possibilités non réalisées. Hein. Et il y a quand même dans cette idée, disons, des promesses non tenues, y compris du progrès, y compris de la science, y compris de la technique, cette idée que ces promesses non tenues ne sont pas ou ne disparaissent pas du fait de ne pas avoir été tenues, si je puis dire. On peut retrouver dans le passé des possibilités qui ont été effectivement vaincues, qui ont été circonstanciellement vaincues. Lorsqu'on parle, par exemple, je prends cet exemple parce qu'il me vient à l'esprit, de la fin de l'État-providence, de l'impossibilité de retrouver la possibilité, disons, d'institutions qui soient des institutions politiques plutôt de distribution ou de redistribution sociale, eh bien, je trouve qu'on enterrine un peu vite la disparition, le deuil pour le coup, mais là, ça risquera même de nous mener à une certaine mélancolie politique, on entérine un peu trop vite la disparition des promesses politiques non tenues de la modernité. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas été tenues dans les termes dans lesquels on les avait promises, si j'ose dire, qu'il faut pour autant y renoncer définitivement.
Ça donne d'ailleurs une très belle cohérence à ce que vous venez de dire à nos rencontres, en tout cas ces deux dernières journées, puisque c'est exactement cette histoire des promesses non tenues, c'est exactement le cœur du travail ou des travaux de Michel Rieu-Sarcey dans ses livres. Voilà. Jean-Noël Jeannet.
Oui. Je pense que la grande nouveauté, et je me confirme dans cette idée en vous écoutant, la grande différence, parce que tout ne se répète pas à l'identique, entre la fin du 19e siècle, qui est si intéressante pour comparaison, et aujourd'hui, c'est qu'il y avait deux catégories d'analystes et de penseurs, ceux qui disaient « le progrès va nous conduire forcément vers une sorte de lieu magnifique, on n'a pas à agir », et ceux qui disaient « il est gros de toutes les stupidités, de toutes les... » dégradation de la pensée, de toutes les vulgarités. D'un côté, effectivement, c'est Berthelot, de l'autre, par exemple...
Bouvard et Pécuchet.
Oui, bien sûr, ou Huysmans, dans Un rebours. On trouve des phrases exactement dans ce sens. Et nous, peut-être à cause de ces grandes barbaries du 20e siècle que vous avez évoquées à bon escient, nous avons compris la formidable ambivalence de tout ce qui est progrès scientifique. Et ça touche en particulier, me semble-t-il, une certaine idée de l'espace. Nous n'en avons pas encore parlé. Mais il faut lire aussi le progrès dans la relation de l'individu, de l'homme, des humains, des groupes, avec la distance. Ce qui a beaucoup fait réfléchir les gens de science et les philosophes du 19e siècle, c'est la réduction de l'espace. Voltaire, déjà, vous rappelez, dans Micromégas, en 1752, il écrit, comme c'est à propos de ces deux personnages mythiques descendus de Sirius et de Saturne, « Comme ces étrangers-là vont assez vite, ils eurent fait le tour de la planète en 36 heures. » En effet, c'était absolument inconcevable. Mais qu'est-ce que cela veut dire que ces relations, du point de vue de l'image des autres, du point de vue de la construction, de la manière de vivre ensemble pour une planète? Je crois que cette idée de l'espace est importante et touche aussi à la question, parce que c'est très directement lié, de l'immédiateté des émotions et de la circulation de celles-ci. Beaucoup de choses se passaient très vite au 19e siècle, mais beaucoup moins vite quand même. Ça a conduit aux nouvelles technologies que nous n'avons guère encore évoquées pour l'instant, à cette sorte de précipitation des moments bousculant les uns et les autres et qui exige finalement que l'on revienne à cette idée des différents rythmes de la durée, qu'on les impose sans subir la surface seulement des choses, qui permet à la fois de mieux comprendre l'évolution de ce que peut être le progrès et de notre malaise en face de lui, et la manière de le surmonter peut-être pour organiser mieux les chemins de l'action. Parce que comme vous le disiez, il n'y a pas, là comme ailleurs, mais plus encore qu'ailleurs, d'analyse qui vaille s'il ne conduit pas à un effort de réflexion sur ce qu'il faut faire ensemble.
Nous avons été rejoints par Patrice Manillier et Régis Debray. Et Régis Debray, je voudrais me tourner vers vous justement parce que Jean-Noël Jeannet faisait allusion à l'instant à l'immédiateté des émotions. Et vous avez publié il y a quelques mois un très joli essai qui s'appelle Madame H, qui est un livre consacré à l'histoire, à son sens et à sa désorientation. Et à un moment donné, vous définissez justement le rapport à l'histoire sous la forme d'une émotion immédiate. Vous dites, voilà, l'histoire pour moi, c'est pas abstrait, c'est pas théorique, c'est tout simplement ce qui me met les larmes aux yeux. C'est le discours d'un résistant, c'est le souvenir de l'enterrement de Pablo Neruda, c'est le chant des partisans, c'est tel ou tel chant révolutionnaire. Pour moi, l'histoire, c'est ce qui me met les larmes aux yeux, dites-vous. Et il y a, dans cet essai qui court en permanence, une réflexion sur le progrès, sur l'histoire qui avance finalement plutôt en crabe, comme vous le dites. Et vous écrivez ces mots, je vous cite, « Aussi aurais-je passé ma vie à attendre l'inattendu après lequel il n'y aura plus rien à attendre, l'événement qui changerait la vie, celle du genre humain et la mienne en passant. » C'est-à-dire que vous inscrivez effectivement votre propre itinéraire dans toutes les apories, les contradictions, les petits va-et-vient qu'on a évoqués depuis le début de cette table ronde. Régis Debray.
Merci pour l'allusion à ce petit travail d'écrivain, c'est-à-dire très personnel et très subjectif. Mais le sujet que vous traitez, qui est la crise de la notion de progrès, m'interpelle en tant que je peux représenter la génération des vieux philosophes ici, mon agrégation à 50 ans. Les vieux philosophes ont ceci de particulier qu'ils sont très simplistes. Et pour moi, la crise du progrès, c'est simplement la fin d'une confusion entre deux domaines. Le domaine d'abord des rapports du sujet aux choses, progrès technique, et puis le rapport du sujet au sujet, des rapports de l'homme à l'homme. Donc, l'idéologie du progrès, qui est une vaste illusion, repose sur la confusion entre le progrès technique et scientifique, qui est incontestable et qui est caractérisé par le cliquet d'irréversibilité. Quand vous avez une télé couleur, vous n'allez pas acheter une télé en noir et blanc. Quand vous avez un tracteur, vous n'allez pas acheter un arrière. Et le devenir politique qui n'a pas de ticket d'irréversibilité. Après la République de Weimar, vous pouvez avoir le nazisme. Et après une démocratie, vous pouvez avoir une théocratie. Donc la confusion, si vous voulez, d'un temps fléché avec un temps précaire, éventuellement cyclique, c'est la grande illusion du progressisme qui faisait dire à Victor Hugo qu'il ne peut plus y avoir de guerre entre la France et l'Allemagne, puisque le train relie Paris à Berlin en quelques heures. Il a dit ça en 1867 et il y a eu depuis trois guerres franco-allemandes. Donc, si vous voulez, c'est ce que Benjamin appelait l'illusion mortelle du progrès. Car il trouvait le progrès mortel. Autrement dit, il incriminait, il interpellait les sociodémocrates de son temps. Vous vous êtes reposé sur l'idée d'un temps fléché et vous n'avez pas pris conscience que le passé est inachevable et que peut-être le passé peut vous secourir, notamment lorsqu'il il enjoignait les sociodémocrates de se rappeler Blanqui, et il voulait réinjecter dans le temps mécanique du progrès ce qu'il appelait des éclats de temps messianiques. Bon. Donc, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est d'abord évidemment qu'il faut distinguer ces deux ordres de réalité. La réalité technique d'un côté, la réalité morale et politique de l'autre. Autrement dit, un plus n'est pas un mieux nécessairement, mais ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est le progrès rétrograde. Et c'est ça ce qui déconcerte tellement la gauche contemporaine, c'est que le progrès technique et scientifique peut susciter la régression politico-culturelle. Et on le constate un peu partout.
C'est-à-dire dans quel domaine?
Bah écoutez, Gracq disait du siècle des Lumières, oui, il a tout éclairé et rien deviné. Qu'est-ce qu'il n'a pas deviné? Il n'a pas deviné la résurgence des passions collectives, la résurgence des passions d'appartenance. Voltaire n'avait pas prévu la Marseillaise. et Diderot n'avait pas prévu Valmy. Bon, aujourd'hui, nous étions dans une vision du monde où il était impensable que le fondamentalisme religieux revienne. Et curieusement, il est revenu par la science et par la technique, puisque comme chacun sait, depuis 50 ans, tous les cadres fondamentalistes sortent principalement des universités scientifiques et des instituts techniques. Ah ! Comment des gens extrêmement sophistiqués en termes scientifiques, à la pointe du progrès, peuvent tout d'un coup recourir à une appartenance perdue, à un besoin d'appartenance qui fait ressurgir de façon fantasmatique un passé rêvé, le Mahomet de Médine ou l'Israël des Maccabées. Bon, donc on voit revenir l'archaïsme parce qu'on découvre que le néocortex est plus fragile que le rhinencéphale, c'est-à-dire que ce qu'il y a de plus récent dans l'évolution d'une société, c'est ce qu'il y a de plus fragile, et qu'en cas de crise, qu'est-ce qui se déstructure? C'est le plus nouveau et remonte quoi? Le clanique, le tribal, le nationalisme, si vous voulez, c'est-à-dire pas la nation civique, mais la nation ethnique. Autrement dit, on voit ressurgir aujourd'hui, à la pointe du progrès, des idéologies passionnelles qu'on peut qualifier de tribales. Autrement dit, la tribalité, avenir possible de l'humanité. C'était pas prévu, vous m'avouez, mais si vous regardez la carte du Proche-Orient, vous voyez que toutes les États très récents où on a essayé de produire du citoyen, non, ça produit d'abord des tribus, hein, au sens neutre du mot. Donc, il faut admettre que la modernité sera le siècle des archaïsmes. La postmodernité en particulier va faire renaître toutes sortes d'archaïsmes. Nous le voyons dans notre pays d'ailleurs assez bien. Mais allez en Californie ou à Silicon Valley, vous trouverez toutes sortes de sectes néo-mystiques parfaitement ésotériques et parfaitement irrationalistes. Donc voilà, si vous voulez, voilà ce que le vieux philosophe peut vous dire sur ce sujet.
Et alors que peuvent nous dire les jeunes philosophes représentés par Michael Fossel et Patrice Maniglier. Patrice Maniglier qui sera également demain parmi nous pour évoquer les valeurs de la France. Mais là, donc, nous sommes sur cette idée de progrès. Patrice Maniglier, d'abord, est-ce que vous faites cette même distinction qui apparaît assez nettement dans le cadre de cette table ronde? Et est-ce que vous feriez votre cette idée d'un progrès rétrograde, comme vient de l'évoquer Régis Debray?
Oui, déjà, je suis frappé par le progrès, ou peut-être est-ce une régression de la conversation. On est parti sur un ton extrêmement enjoué et gourmand, et on arrive à quelque chose de beaucoup plus sombre.
Ouf.
Je ne sais pas si c'est un progrès ou au contraire, justement, quelque chose d'éclairant. Mais moi, sur la question du progrès, j'ai envie de vous dire la seule chose qui me donne envie de croire au progrès, c'est que les gens n'y croient plus. C'est la seule chose. Et évidemment, c'est un paradoxe. Bon, les philosophes sont aussi faits pour ça. Même les jeunes philosophes, cher Régis Debray. Et ce paradoxe, en fait, en évoque un autre qui est de même nature, mais qui le prend à l'envers, qui est la phrase de Lévi-Strauss, très célèbre. Le barbare, c'est d'abord celui qui croit à la barbarie. Donc ça dit à la fois qu'on peut pas se passer de l'idée de progrès d'une certaine manière, et en même temps qu'y adhérer, c'est la ruiner. C'est le principe du paradoxe, comme le paradoxe du menteur. Si c'est vrai, c'est faux. Si c'est faux, c'est vrai. Si vous y croyez pas. Si vous y croyez pas, vous y croyez. Vous êtes coincé de tous les côtés.
Alors, ça veut dire que pour que le progrès advienne, il faut mieux qu'on ne pas trop y croire.
Donc il y a un problème. Et donc il faut des distinctions, en effet. Et là, je suis d'accord. Il faut des distinctions. Et je pense que la distinction, elle est de dire qu'il faut distinguer, bon, Michael Fossel l'a dit, le progrès global et les progrès locaux. Vous avez commencé sur ça. Donc le petit texte de Lévi-Strauss dans Race et Culture insistait beaucoup sur ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, évidemment, la grande erreur serait de croire qu'on a des critères d'évaluation globaux pour évaluer les avancées ou les reculs. Et là, il me semble, la conversation va se perdre. Parce que, évidemment, si vous changez de contexte, vous changez de critères d'évaluation. Autrement dit, il faut être un petit peu relativiste. Et ça m'oblige à rappeler une des sources qui n'a pas encore été mentionnée de la crise de l'idée de progrès, à savoir que le progrès a été utilisé pour organiser idéologiquement la colonisation du monde par l'Europe. Et il ne faut pas l'oublier. Progrès, on pourrait dire, que de crimes ont été commis en ton nom. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Donc il y a en effet, à mon avis, quatre événements majeurs qui font que le progrès est quelque chose auquel on ne peut plus adhérer de manière aussi spontanée. Moi, je dirais quand même, premièrement, la Première Guerre mondiale, et Paul Valéry, ici, le texte fameux « Nous savons, civilisation, que nous sommes mortels » est extrêmement éclairant, puisque son contenu dit « Que de vertus pour tant de crimes », dit-il. En fait, il accuse les Allemands. Mais enfin, on pourrait s'accuser tous. Évidemment, la Shoah et Hiroshima, ou avec le sentiment que c'est l'industrialisation qui a permis ce type de crime. Mais je dirais aussi, en fait, après-guerre, la décolonisation et la compréhension, justement, que l'idéologie du progrès était une machine de mort absolument gigantesque. Allez demander aux Indiens d'Amérique, hein, qui ont été exterminés par dizaines de millions, si vraiment il y a eu un progrès global de la planète. Ça n'a pas de sens. Allez demander aux Javanais, l'île de Java, il y a eu 90% de pertes humaines. Est-ce qu'il y a eu un progrès? Alors, évidemment, par le biais des maladies, etc. Tous ces gens n'ont pas été exterminés par des balles. Mais voilà. Enfin, et ça n'a pas été mentionné, mais c'est un des lieux les plus graves, c'est le réchauffement climatique. C'est évident qu'aujourd'hui, nous savons, puisque si tous les êtres humains sur la Terre devaient vivre comme nous, il nous faudrait 4 planètes, selon certaines estimations. Donc, nous ne pouvons pas continuer comme ça, quoi qu'il arrive. Donc, nous sommes effectivement, de fait, confrontés à ce problème. Nous devons reprendre cette question pour vivre mieux, si vous voulez, mais pas pour avoir un récit global, etc., mais pour, effectivement, pouvoir avancer de manière variée.
Alors là, et pourtant, Patrice Maniglier, c'est peut-être aussi le progrès qui nous permettra d'échapper à ce réchauffement climatique.
Non, c'est pas sûr. C'est aussi, effectivement, le fait, justement, de parfois préférer l'arrière au tracteur. Et je pense, par exemple, à la permaculture. Donc ça, c'est un des lieux très graves de l'idée de progrès, c'est-à-dire l'industrie agricole ou l'agriculture industrielle, on a eu le sentiment que c'était une des formes du progrès les plus spectaculaires. Aujourd'hui, on a l'impression, au contraire, qu'elle appauvrit les sols, qu'elle rend plus difficile. Alors, vrai ou faux, c'était une chose à discuter. Mais moi, je crois au contraire que sur la question du progrès, il est urgent de ralentir.
Alors c'est très intéressant, il y a beaucoup de résonances très belles entre ce que vous avez dit les uns les autres. Tout à l'heure, Patrice Maniglier a dit le progrès c'est à la fois une idée dont voilà on peut pas y adhérer sans entraîner une certaine ruine. En même temps, on peut pas s'en séparer, s'en passer. Et tout à l'heure, Michael Fessel lui a dit ben moi quand je fais le deuil du progrès, c'est encore une manière de défendre quelque part une renaissance du progrès. Comme si le progrès était effectivement une sorte d'espérance ou de naïveté qui à la fois nous perd et nous sauve quand on la reconstruit. Et ça me fait penser, puisqu'on cite beaucoup de grands auteurs, à Sartre, hein, qui dans un texte en 1980, tout à la fin, dans ses dialogues avec Benny Lévy, dit, eh bien, il faut croire au progrès. Il faut, hein, c'est une nécessité, il faut croire au progrès. Et c'est peut-être une de mes dernières naïvetés. C'est-à-dire le vieux Sartre qui constate la ruine de l'idée de progrès et qui dit, mais je ne veux pas me séparer de cette naïveté, je veux encore m'y cramponner. Mais... Michael Fessel.
Oui, non, mais ça renvoie simplement au fait que le terme de progrès partage avec un terme qu'on n'a pas non plus, je crois, encore prononcé, mais qui lui est très lié, le terme de modernité, une sorte de maléfice sémantique. C'est-à-dire, évidemment, qui voudrait ne pas être moderne? Qui voudrait être contre le progrès? Bon, et alors, en même temps, de ce point de vue-là, le progrès, comme la modernité, sont aussi des notions idéologiques. C'est-à-dire qu'au nom du progrès, on a évidemment justifié tout et parfois même le pire. De la même manière que parce qu'il faut être moderne, c'est-à-dire poser sur le passé un regard, disons, un peu condescendant et accorder à l'avenir sa croyance la plus ou son espérance la plus vive, eh bien évidemment, on a pu passer par pertes et profits des expériences, y compris Patrice Maniglier le rappelait, des expériences, disons, de rapport au monde, en l'occurrence agraire ici, qui certainement méritait d'être maintenu. Maintenant, si on passe de la critique tout à fait légitime, nécessaire, des idéologies du progrès, des mésusages du progrès, à une réflexion sur la chose elle-même, alors je serais plutôt du côté de Sartre que vous évoquez, de cette naïveté qui fait que précisément il est très difficile de faire une critique du progrès autrement que depuis une certaine idée de ce progrès lui-même, et que après tout la critique même du progressisme républicain qui a justifié au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, la colonisation, est un progrès du point de vue du savoir. C'est-à-dire qu'au fond, on entre là dans une difficulté qui est que dans notre modernité à laquelle nous appartenons, me semble-t-il, encore, même si elle est un peu tardive, fatiguée, à certains égards même dépressive, eh bien il y a des mots dont on ne peut pas ou très difficilement faire l'économie. Et c'est justement dans ces mots-là, et le mot progrès, à mon avis, en fait partie, c'est ces mots-là qui doivent requérir peut-être notre plus grande attention, j'allais dire parfois même une certaine forme de souci, de soin, à partir du moment où, précisément, premièrement, ils ont fait l'objet d'usages, on peut dire au sens strict, véritablement dramatiques, horribles, insupportables, d'usages idéologiques insupportables, mais aussi à un moment où on peut être tenté quand même de vouloir les liquider au nom des mésusages dont ils ont fait l'objet, et pour un monde qui, au fond, garderait du progressisme ce mécanisme, cette automaticité, alors qu'il n'en garderait rien, disons, de la nécessité d'inscrire une volonté humaine tout de même dans ce qui nous entoure et dans le temps qu'il nous reste, malgré tous les catastrophismes ambiants à vivre.
Alors Jean-Noël Jeannet voulait réagir, mais j'ai vu que pendant que vous parliez, Michael Fessel, Patrice Maniglier faisait un peu la moue, comme s'il y avait un désaccord. Donc on va faire des progrès dans cette rencontre en mettant en avant un petit dissensus ou un petit...
Est-ce qu'il est nécessaire de faire la moue pour avoir la parole ?
Ah. Oui, je propose...
Allez-y, faites la moue et je vous donne la parole.
Je me le rappellerai la prochaine fois. Alors, c'est moi ou c'est vous ? L'homme
non,
à la moue, l'homme sans moue.
Oui. Allez, Jean-Noël Jeannet.
Non, je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la naïveté de Sartre et la lucidité sur la diversité des progrès, sur la possibilité raisonnable de parler du progrès en général. Je suis un très jeune agrégé d'histoire, puisqu'il y a 50 ans que je le suis, et je dirais qu'on ne nous a jamais appris, nous n'avons jamais enseigné qu'il y avait une sorte de linéarité, je l'évoquais en commençant, qui conduirait vers une espèce de lieu idéal, paradisiaque, où l'humanité serait réconciliée avec elle-même et avec la planète. Absolument pas. Et d'ailleurs, on n'a pas cessé de nous parler de la décadence, c'est un peu remis en cause, de l'Empire romain. Vous vous rappelez ce que disait Verlaine, je suis l'Empire au moment de la décadence qui regarde passer les grands barbares blancs. Hein. Et puis, Huizinga, l'historien du Moyen-Âge, parlait de la crise du Moyen-Âge. Et puis, il y a eu beaucoup d'autres crises. Vous avez évoqué à juste titre la nécessité d'une diversification spatiale. Parce qu'évidemment, les Hottentots, enfin, tous les crimes épouvantables qui ont été commis par la colonisation, on ne peut pas parler de progrès. Mais il me semble que même si nous parlons des progrès à la fin de cette conversation, il ne me revient pas de conclure. Ce ne sera pas illégitime si vous concluez de la sorte, parce que c'est un effort constant pour des progrès qui concernent des activités diverses de l'humanité, qui sont spatialement définies et qui doivent s'efforcer constamment d'aller au-delà de leur propre espérance. Et ça suffit, me semble-t-il, pour dessiner assez bien la problématique et la finalité d'une vie d'homme.
Patrice Maniglier.
Oui, je crois que je faisais la moue parce que j'ai le sentiment, moi, qu'on peut se passer de l'idée de progrès, au singulier comme au pluriel, à vrai dire, et parce que je crois tout simplement que ça n'est pas l'aspiration vers le mieux qui fait agir les hommes dans leur vie collective ou dans leur vie individuelle, mais deux choses différentes qui n'ont rien à voir. Jamais personne n'a agi pour obtenir quelque chose dans l'avenir qui sera meilleur, véritablement. Au sens profond des motifs d'action. C'est une manière de se représenter son action, mais de manière très spinoziste, je dois dire, je crois que ni la crainte ni l'espérance ne sont des véritables motivations humaines. Qu'est-ce qui fait agir ? L'intolérable. Il y a quelque chose sur votre dos que vous ne supportez pas. Donc, par exemple, l'injustice, le refus, la fuite. Comme disait Deleuze, il avait cette belle phrase en bon spinoziste, dit « fuir, oui, mais avec une arme ». C'est une très belle formule. Et autre chose, qui est le désir. Sous le signe duquel Jean-Noël Jeannet mettait cette conversation au départ, la gourmandise, moi j'ai beaucoup aimé ce mot, le désir fait agir, mais je crois que le progrès est véritablement une idée de philosophe, au sens un peu triste parfois, où les philosophes justifient ou tentent désespérément de réparer les trous de l'intelligibilité de nos vies. Voilà. Mais je crois que c'est pas nécessaire. Ces trous sont très bien, ils nous font agir, et on n'a pas besoin de ça pour avoir l'énergie de vaincre, y compris d'ailleurs une perspective révolutionnaire, parce qu'il y a plein de révolutions qui n'ont pas besoin de l'idée de progrès. Aujourd'hui, nous sommes dans une vague de révolutions, aucune d'entre elles n'a été faite au nom du progrès. Elles ont été faites parce qu'il y a des points d'intolérables.
Régis Debray, vous rappeliez... hier,
que je fais l'amour.
Vous rappeliez hier, Régis Debray, que votre passé, votre engagement dans le passé, vous avez valu quelques ennuis, un passé de combattant révolutionnaire. Est-ce que justement vous vous étiez mu par cette idée de progrès, ou bien est-ce que vous adhérez là à ce que vient de dire Patrice Maniglier, que ce n'est pas cette notion-là et cette idée-là, en tout cas, qui est un moteur ?
Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je voudrais simplement rappeler deux choses. D'abord que la religion du progrès, c'est la religion chrétienne modernisée, hein, c'est-à-dire que je vous rappelle qu'avant le christianisme, il y avait un temps cyclique de l'éternel retour, type Nietzsche, et puis il y a eu un temps fléché. Ça commence mal, ça finit bien. Ça commence avec la pomme et ça finit par la résurrection des corps. Donc, tout de même, c'est pas mal, le temps chrétien, n'est-ce pas? On a modernisé cela avec la grande illusion technologique. Et ce que Sartre disait me rappelle le mot célèbre de Scott Fitzgerald. Il faut savoir que les choses sont inchangeables et tout faire pour les changer. Donc vivre avec deux idées contradictoires, n'est-ce pas ? Ce qui est important dans cette suggestion, c'est qu'il ne faut pas cadrer le faire par le savoir. On sait que le progrès n'existe pas et il faut faire comme s'il pouvait exister. Autrement dit, il faut abandonner la théorie pour se jeter peut-être dans certaines pratiques. Et pourquoi on s'y jette ? Eh bien parce qu'il vient d'être dit par le sentiment du refus. Il faut se braquer bêtement contre certaines choses inacceptables.
Ça peut être efficace tout de même.
Et c'est bien, c'est la condition de l'efficacité, c'est le sentiment. C'est le pathos, le thumos, le cœur, éventuellement le courage. Autrement dit, on peut parfaitement relativiser, dénoncer le progressisme comme un confusionnisme, et néanmoins, résister, voire casser la gueule aux barbares quand ils sont là, par un simple sentiment d'intolérable. Voilà.
Bon, Jean-Noël Jeannet, pour conclure, est-ce que dépasser la crise du progrès, ça serait renoncer à cette idée ? Ce serait la meilleure façon peut-être de la dépasser, cette crise ?
Oui, je pense qu'on peut déconstruire...
Alors ça, c'est Régis Debray qui parle, hein, je le précise pour nos auditeurs.
Non, mais enfin, on peut déconstruire l'idée de progrès sans se retirer dans sa tour d'ivoire et sans désespérer et sans penser que hier était mieux parce que c'était hier. Même si je dirais que tous les proactifs ont un rétroviseur à côté d'eux. Hein. C'est parce que c'était mieux hier qu'on ne veut faire aussi bien qu'hier et c'est parce que les révolutionnaires français en 89 avaient fait beaucoup d'histoire romaine qu'ils ont voulu refaire un peu la République romaine à Paris. C'était pas trop mal.
Mais c'est aussi pourquoi un député s'est élevé en disant à l'orateur « Mais enfin, monsieur, l'histoire n'est pas notre code. »
Ouais, mais il s'est trompé.
Non, il s'est pas trompé. Enfin, c'est pas moi
il
qui vais critiquer l'histoire.
Il s'est trompé parce que, précisément, les révolutionnaires français parlaient latin, parlaient grec, et c'est en latin. Vous me direz que Napoléon aussi, il a voulu être consul et puis empereur, donc il a fait un peu trop de latin, je suis d'accord. Mais tout de même, il me semble... Enfin, moi, tous les révolutionnaires que j'ai connus étaient des nostalgiques. Hein. Je regrette, mais c'était des gens qui voulaient faire comme le sous-commandant Marcos, ils voulaient faire aussi bien que Zapata.
C'est d'autres
veulent faire aussi bien que Lénine. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais je constate que l'idée d'avoir dans le dos un passé qui vous accuse et qui vous accuse de ne pas faire aussi bien que lui, c'est moteur et c'est propulsif.
C'est peut-être pour ça qu'il faut préférer les réformistes.
Eh bien, ce sera la conclusion provisoire de cette discussion. Merci à tous les quatre. Jean-Noël Jeannet, Michael Fossel, Régis Debray et Patrice Maniglier. Merci à toutes les équipes du rectorat de Montpellier, aux équipes techniques de Radio France, Adrien Gaza, Patrick Muller, Mathieu Tourin, Gilles Manet. Émission réalisée par Nathalie Salle, coordonnée par Mathieu Maraudin. Demain, interroger la France et ses valeurs, ce sera le thème de cette troisième journée des 30e rencontres de Pétrarque, en compagnie à nouveau de Patrice Maniglier, de Rachid Benzine et de Louis-Georges Tin. À bientôt.